Et on commence ce journal avec cette étude parue dans la revue Nature. Il existe un lien entre pollution de l'air et fausses couches silencieuses.
Ce qu'on appelle les fausses couches silencieuses, ce sont les grossesses qui échouent lors du premier trimestre. Alors cette étude, c'est une vaste étude épidémiologique chinoise menée par les chercheurs de l'université de Pékin. Ils ont recoupé les informations médicales de 255 000 femmes enceintes dans cette ville entre 2009 et 2017. Alors toutes ces informations ont été recroisées avec les données des stations de surveillance de la qualité de l'air, avec les taux de concentration des particules fines, du dioxyde de soufre, du monoxyde de carbone et de l'ozone. 6,8% de ces femmes ont vécu une fausse couche. L'étude montre que plus l'exposition à ces substances est forte, plus le risque est élevé. Niveau d'éducation, profession, lieu de travail et lieu de résidence ont été pris en compte. Mais l'étude présente des limites, car elle ne prend pas en compte des biais majeurs, notamment si les mères sont fumeuses ou non. Bénédicte Jacquemin est épidémiologiste à l'INSERM, associée à l'IRSET, l'Institut de Recherche en Santé, Environnement et Travail.
En grande majorité, les grossesses non évolutives sont dues à des risques génétiques, mais il y a une partie aussi qui est due à des risques environnementaux. Et donc ici, en Chine, ils ont la chance d'avoir accès à d'énormes bases de données avec énormément de patientes, ce qui donne accès à une puissance statistique que l'on n'aurait pas dans d'autres contextes. Il donne quand même quelques hypothèses, c'est-à-dire que la pollution atmosphérique cause de l'inflammation, et l'inflammation, elle est systémique, et l'inflammation utérine et tout ça pourrait avoir des effets sur le bon développement et déroulement et fonctionnement du placenta. Après, il y a de plus en plus d'études qui montrent que les particules fines et ultra fines, elles peuvent même traverser la barrière placentaire et arriver jusqu'au fœtus aussi. On ne peut pas donner des conclusions basées sur une seule étude. Pour ça, il faut avoir plus d'études dans différents contextes qui nous permettent de mieux comprendre les effets de la pollution atmosphérique. Donc ça, c'est une étude de plus qui a pas mal de limites, comme on l'a dit précédemment, mais qui est quand même basée sur une grande quantité de patientes et qui, en plus, montre des résultats quand même assez clairs d'un effet plus la concentration est élevée de plusieurs polluants, plus le risque de grossesse non évolutive est élevé. Tout ça doit contribuer au fait qu'il nous faut des politiques de santé qui aillent vers une diminution des expositions à la pollution atmosphérique.
En bref, dans la revue Cell, des embryons artificiels de souris ont été fabriqués sans sperme ni ovule.
Et des embryons artificiels qui parviennent à se développer dans un utérus, c'est une première. Dans les expériences passées, l'implantation utérine s'est toujours soldée par un échec. Les chercheurs de l'université du Texas ont créé ces fœtus de souris à partir de cellules souches pluripotentes étendues, reprogrammées en trois types de cellules embryonnaires. Mais lors de leur croissance, les fœtus portaient des malformations majeures. On est donc encore loin de pouvoir créer des embryons de cette façon.
Selon une étude parue dans The Journal of Geophysical Research, les glaciers de l'Antarctique libèrent des résidus radioactifs qui viennent des essais nucléaires des années 50.
Et en moins de 20 ans, les États-Unis ont enclenché 230 détonations d'armes nucléaires dans l'océan Pacifique. Dans des carottes de glace prélevées sur un glacier américain, une équipe française a découvert du chlore 36, un isotope radioactif. Pour déterminer comment le chlore 36 se comporte dans le temps, ils ont ensuite prélevé différentes carottes de glace de plusieurs époques et régions. L'étude suggère que le chlore 36 serait plus mobile que prévu, allant des profondeurs vers le haut. Ces travaux rappellent l'impact durable des armes nucléaires sur l'environnement.
Et cette semaine, dans le journal des sciences, tout au long de la semaine, Natacha, il était question d'un nouveau prototype de détecteur de neutrinos, de l'élaboration du premier utérus artificiel pour les grands prématurés, de la régénération du cartilage humain, ainsi que de la différence entre les hommes et les femmes chez la dépression, mais également cette semaine, Natacha, en ultra bref.
Pour son projet Starlink, SpaceX, la société d'Elon Musk, veut lancer 30 000 satellites supplémentaires, en plus des 12 000 satellites initialement prévus. L'Union internationale des télécommunications qui distribue ces autorisations devrait trancher ces prochaines semaines. Cette saturation du trafic spatial inquiète la communauté scientifique. Selon le dernier rapport de l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle, l'année 2018 est une année record de dépôts de brevets. Il y a eu 3,3 millions de demandes de brevets dans le monde. La moitié de ces demandes viennent de Chine. Avec le Japon et la Corée du Sud, l'Asie est le centre mondial de l'innovation. Et enfin, en ultra bref, des géologues ont trouvé au Maroc des fossiles de trilobites, des arthropodes marins vieux de 480 millions d'années, alignés en file indienne les uns derrière les autres. Cette découverte signifie que les premiers comportements sociaux entre les animaux sont apparus tôt après l'apparition du vivant.
Et puisque nous sommes vendredi, on passe au journal de la SF comme tous les 15 jours. Avec cette information, Natacha, pour commencer, un chercheur a recalculé les vitesses de déplacement de l'Enterprise, le vaisseau de Star Trek, et elles sont non seulement décevantes, mais fausses.
Oui, c'est le constat de James O'Donogh, un ancien de la NASA, qui travaille actuellement pour l'Agence spatiale nationale japonaise. Il s'est demandé quel temps mettrait vraiment l'équipage de Star Trek à traverser le système solaire. Dans la série, le vaisseau spatial se déplace à la vitesse de la lumière. Rappelons que c'est impossible. Il était équipé de plusieurs warps, de plusieurs facteurs de propulsion exponentielle. James O'Donogh a retrouvé le manuel de 1991, publié par les deux conseillers techniques de la série, un manuel qui contient des chiffres précis et qui donne des lois de distorsion. Il a ensuite recalculé ces différentes vitesses avec les distances que l'on connaît, entre le Soleil et Pluton par exemple. Ces résultats viennent d'être publiés dans une vidéo démonstrative. Stéphane Mazouffre est directeur de recherche au CNRS, physicien des plasmas et spécialiste en propulsion spatiale.
C'est frustrant de voir à quel point le vaisseau se déplace si lentement sur sa petite vidéo et qu'il faut attendre vraiment d'avoir ce qu'ils appellent les facteurs de repliement qui soient très élevés pour l'avoir un petit peu traversé l'écran en quelques secondes. Et à partir de ces lois qu'il a trouvées dans le manuel de référence, il a pu recalculer les vitesses et donc en déduire le temps qu'il fallait pour aller visiter les diverses planètes, étoiles ou galaxies. Si on voyage à la vitesse de la lumière, combien de temps il faut en fait pour y aller? Alors vous allez mettre par exemple 8 minutes, un peu plus de 8 minutes pour aller sur le Soleil. Bon, ce qui peut sembler court, mais le Soleil c'est déjà très loin. Après, pour aller sur Proxima du Centaure, donc l'étoile la plus proche de la nôtre, il faut déjà plus de 4 ans. Pour sortir de notre galaxie, donc de la Voie lactée. Donc là, je pense qu'il faut plusieurs centaines de milliers d'années. Je ne connais pas par cœur sa taille. Ce qu'on voit pas dans les films, c'est qu'ils mettent longtemps eux aussi pour y aller, malgré leur capacité à aller plus vite que la vitesse de la lumière, voire des milliers de fois plus vite, avec le facteur de repliement là, de 9,9. C'est ce que montre très bien sa petite vidéo, c'est-à-dire que pour aller d'une étoile à une autre ou d'une galaxie à une autre, même eux, il leur faut beaucoup de temps en fait. Que même avec des technologies très élaborées qu'on n'a pas à disposition aujourd'hui, on n'ira jamais très très loin en peu de temps.
Et en bref, de science-fiction, Margaret Atwood a remporté le Booker Prize 2019.
L'auteure canadienne a été récompensée pour Les Testaments, la suite très attendue de La Servante écarlate, la dystopie vendue à plus de 8 millions d'exemplaires dans le monde. Les Testaments vient d'ailleurs de sortir cette semaine aux éditions Robert Laffont. Et ce n'est pas la première fois que l'écrivaine remporte ce prestigieux prix littéraire britannique. Elle l'avait déjà reçu il y a 19 ans pour son roman historique Le Tueur aveugle.
Les toutes premières versions d'Harry Potter étaient en réalité beaucoup plus longues que ce que n'ont été publiés en France.
Oui, au départ, dans les trois premiers tomes des versions françaises, pour ne pas faire peur aux jeunes lecteurs, les éditions Gallimard ont coupé des passages entiers, des paragraphes humoristiques, des descriptions, etc. Mais depuis la sortie du tome 4, les rééditions sont dorénavant complètes.
Oui, c'est J.K. Rowling, la nouvelle Dostoïevski contemporaine. Bref, le réalisateur David Cronenberg va réaliser une série pour Netflix.
Cela fait depuis 2014 que le cinéaste n'a rien réalisé. Et pour Netflix, il va adapter son roman Consumé en français, publié en 2016 aux éditions Gallimard. L'histoire d'un couple de photoreporters en quête de sensations fortes. Le projet est actuellement en pré-production.
Et pour finir, les Utopiales, le festival de science-fiction à Nantes vient de publier son programme.
La 19e édition se tiendra du 31 octobre au 4 novembre 2019 avec comme thème cette année Coder, décoder. En tout, plus de 200 invités sont en rendez-vous, parmi lesquels Ada Palmer, Thaddée Thompson, Alain Damasio, Catherine Dufour. Le programme est à retrouver en ligne à l'adresse www.utopiales.org.
Mais le lien, bien sûr, et comme chaque année, nous serons aux Utopiales pour différentes émissions en public, ainsi que d'autres programmes de France Culture, comme la conversation scientifique ou le tout nouveau rayon BD du camarade Victor Massé de l'Épinay. Et pour conclure, comme chaque semaine, la rubrique de science improbable avec un cas rare. et douloureux, Natacha, en urologie, qui nous est rapporté par la revue Urology Case Reports. Messieurs, éloignez-vous du poste.
Ça faisait un patient de 22 ans, s'est présenté aux urgences d'une clinique en Arabie Saoudite. Le jeune homme avait une pince à épiler de 8 cm coincée dans l'urètre. Cela faisait 4 ans qu'elle était introduite ici. Alors, le plus curieux est que cela aurait dû être extrêmement douloureux, mais que le patient ne s'est plaint d'aucun symptôme. Pour les docteurs, c'est un mystère, et dans la littérature médicale, c'est une première.
Et voilà, merci beaucoup, pas merci du tout, Natacha. Le journal des sciences que vous pouvez retrouver chaque jour dans la méthode scientifique, et puis tous les liens vers les études sur franceculture.fr, ainsi que sur notre fil Twitter, @laméthodefc.